Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, ces passionnés vous partageront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doute, remise en question, mais aussi réussite. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Vous pouvez soutenir Why a PhD en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Julie Céline Gros-Bonbataille, déléguée régionale du CJD, Centre des jeunes dirigeants, et docteur en sciences de gestion. Durant notre échange, elle nous explique comment elle a su, alors qu'elle menait une carrière de front, préparer et vendre son projet de thèse à la structure pour laquelle elle travaillait, comment elle a su s'organiser pour allier travail et thèse, et comment elle a fait pour rédiger sa thèse sur article. Si vous êtes actuellement en poste et projeté de vous lancer en thèse, je vous invite vivement à écouter cet épisode. Bonne écoute!
Bonjour Julie Céline.
Salut Megda.
Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, Julie Céline, j'ai 35 ans et donc je suis aujourd'hui docteur en sciences de gestion depuis un an et je travaille également en tant que déléguée dans un mouvement patronal.
Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours dans la recherche?
Oui, alors en deux mots, alors moi j'ai réalisé une thèse au sein et financée par l'association dans laquelle je travaille. Donc ce n'était pas une thèse en chiffres comme habituellement, mais c'est une thèse qu'en fait mon employeur a financée puisqu'en fait je travaillais déjà là-bas depuis plusieurs années. Je n'avais pas forcément droit au contrat CIFRE et du coup j'ai dû vendre mon projet pour qu'il puisse se décider à investir ou pas dedans. Voilà, ça faisait plusieurs années en fait que j'étais salariée et puis à un moment donné j'ai eu envie de renouer avec peut-être le côté études, réflexion, etc. Et la thèse m'est apparue comme une bonne opportunité.
Tu avais déjà envisagé de faire une thèse pendant ton master?
Oui, alors. Envisager, oui, enfin je réponds un oui affirmatif parce qu'en fait je crois que une professeure ou deux m'avaient suggéré pourquoi pas de continuer en thèse en master, sauf qu'à l'époque je connaissais déjà que les thèses 100% académiques, donc je savais pas qu'on pouvait faire une thèse en entreprise et je voulais absolument commencer à travailler. Donc en fait pour moi c'était hors de question de faire une thèse hein, honnêtement ça m'intéressait d'ailleurs pas du tout à la sortie du master. Et c'est vraiment au bout de voilà 6-7 ans dans le monde du travail où j'ai plus eu cette envie de voilà comme je disais de revenir un peu à ce côté études qui je pense me manquait en fait aussi.
Donc tu travaillais au moment où tu as pris cette décision de te lancer en thèse. Comment ça a été accueilli par ton employeur?
Ça a été un long parcours, hein. Ça a été un long parcours parce que je crois que du début de l'idée, ça devait être en 2017 jusqu'au début de la thèse, qui était finalement début 2019. Je pense qu'il a dû s'écouler peut-être un an et demi, parce qu'en fait, entre le moment où j'ai eu l'idée, donc j'en ai parlé à mon employeur, et au début, en fait, je pensais peut-être avoir le contrat CIFRE, etc. Je savais pas que je rentrais pas dans les clous. Donc au début, j'avais tenté cette opportunité-là, puis finalement, il s'est écoulé plusieurs mois, peut-être 6 mois, avant que finalement, on me dise que non, ça rentrait pas dans les clous du contrat CIFRE, j'étais salariée depuis trop longtemps. Et du coup, à partir de là, j'ai dû trouver une autre solution de financement, parce que moi, j'étais salariée à temps plein, et donc il fallait que je me libère du temps pour travailler sur la thèse. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait. C'est aussi un de mes présidents qui a impulsé l'idée. Il m'a dit, tu vas aller au siège de l'association et tu vas leur proposer d'investir dans ton projet de thèse à raison quelques jours dans la semaine. Voilà, 2 jours par semaine pendant 3 ans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, je suis, J'ai préparé ça comme une réunion d'investisseurs à l'époque. Et donc, voilà, enfin, je leur ai présenté le projet pour voir si ça les intéressait que je bosse sur leur enjeu, mais dans un contexte académique. Et ça a été validé.
Donc, en gros, tu as proposé d'être détaché 2 jours par semaine pour travailler sur ta thèse.
Exactement. Tout à fait.
Et tu conservais ton salaire habituel.
Ouais, exactement. Et surtout, c'était finalement une dotation financière du siège de mon association qui est revenue à moi. Je travaillais en région. Je travaille toujours en région, et c'est la région qui a finalement reversé. Il y a eu quand même un acte financier, hein, et qui pouvait me permettre de me détacher, effectivement.
Comment tu as préparé justement cette commission pour pouvoir, on va dire, vendre ton projet de thèse?
Déjà, je me suis fait un petit peu coacher par une personne qui était spécialiste de la communication publique. J'y suis pas allée toute seule. J'ai quand même eu l'aide d'un formateur et ami qui a pu m'aider à cette préparation. Donc voilà, j'y suis pas allée les mains dans les poches. Donc j'ai préparé des slides, un discours que j'ai répété. C'était une vraie préparation. Hein. C'était pas juste. Je présente et je vois ce qui se passe. C'était vraiment une préparation de communication publique, clairement, où l'idée, c'était de choisir les bons mots et surtout de montrer à mon organisation qu'ils avaient tout intérêt à, finalement, financer un doctorant et profiter de la recherche. Chose qui n'existait pas au sein de mon association. On n'avait pas de doctorant. Donc, il n'y avait pas ce processus de thèse, alors qu'aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai fait ma thèse, j'ai terminé, et là, on a un autre doctorant qui aussi, qui lui, du coup, a pu avoir le contrat CIFRE et qui est au sein du CJD. Donc, ça, c'est entre guillemets, ça a lancé une dynamique.
T'as ouvert la voie.
En tout cas, oui, sans doute un peu, peut-être, j'espère. Mais ouais, enfin, je considérais que notre association sur le CJD, du coup, qui s'appelle le CJD, Centre des jeunes dirigeants, c'est un laboratoire d'expérimentation. Donc, elle avait vraiment l'état d'esprit pour qui a une thèse et pour mener ce genre de pratique.
Tu étais donc détaché 2 jours par semaine pour mener tes travaux et pendant 3 jours, tu travaillais comme à l'accoutumée sur ton poste. Comment t'as fait pour t'organiser et allier travail et thèse pendant...
C'était très compliqué. C'était super compliqué. C'était super compliqué parce qu'effectivement, du lundi au mercredi, j'étais sur l'opérationnel et finalement, du jeudi au vendredi, j'avais ma casquette de chercheur. Sauf que le cerveau ne bascule pas, même si tu lui dis que ça y est, t'es sur la thèse. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est plus gérer les urgences, en fait. Il n'a pas envie forcément de réfléchir et de lire des articles académiques. En anglais, de 30 pages, c'est pas naturel. Donc franchement, c'était très dur de jongler et c'était pas facile d'avoir cette double casquette en réalité. Hein. C'était pas évident. Je sais qu'il y a des thèses, justement CIFRE, où justement tes missions la semaine, même opérationnelle, c'est en lien avec ta thèse. Alors j'imagine que ça facilite un petit peu peut-être la recherche. Donc, ce qui a été, en fait, ce que finalement j'ai réussi à faire, j'ai essayé vraiment au fur et à mesure de me dégager, de me dégager du temps sur la thèse. J'ai aussi participé à des rallyes d'écriture en ligne. Alors, parce que maintenant il y a des associations comme Parenthèse qui m'ont vachement aidée, parce que du coup on se connecte, on est des groupes et on se fait des sessions Pomodoro, on appelle ça. Donc d'une heure répétée avec plein de pauses à chaque fois et du coup ça m'a beaucoup aidé à avancer. Voilà, j'ai eu plein de petits trucs en fait qui m'ont aidé hein. J'ai eu ça, donc cette association Parenthèse, j'ai eu aussi le fait de faire des retraites d'écriture avec des amis du laboratoire. Ça aussi ça m'a aidé. En fait, c'est l'aide morale à un moment donné qui a pas mal aidé aussi pour moi. Il faut vraiment essayer de se trouver des leviers pour moi. Que ça soit des deadlines, des colloques, des papiers à rendre, des groupes avec qui t'écris. Mais en tout cas, moi, mon besoin, c'était d'avoir des leviers pour avancer. Parce que sinon, c'est très compliqué. En thèse, tu t'éparpilles vite, dans 10 milliards de directions. Donc, et c'est un petit peu aussi l'idée de la thèse, hein, de toute façon, de s'éparpiller et puis à un moment donné de dégrossir. Mais justement, il faut dégrossir, il faut se mettre des petits, des petites limites. Enfin voilà, faut se mettre des petites étapes quand même pour avancer.
Côté employeur, j'imagine que tu étais attendue aussi sur le rendu de tes travaux. Est-ce que tu as ajouté une pression à la rédaction?
Ben, en fait, oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui est compliqué quand on fait une thèse en entreprise, je pense, c'est que on est face à deux mondes totalement différents. Le monde académique et le monde professionnel. Différent parce qu'on n'est pas dans une échelle de temps similaire. En doctorat, on est sur un temps long, à minima de 3 ans, mais ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans, surtout en thèse en sciences de gestion. Et donc, même si on se fixe un calendrier, il faut le faire. Il y a de fortes chances pour qu'il ne soit absolument pas respecté, dans le sens où même si tu te dis, au 31 octobre, j'ai écrit mon article, en fait, en même ton article, tu sais pas, parce qu'en fait, tu vas le reprendre 20 fois, que tes directeurs de thèse, ils vont te dire de peut-être modifier la moitié de l'article, que voilà, c'est très très dur. Et en fait, je trouve que tu comprends ta thèse à la fin de ta thèse, véritablement. Donc ça, c'est des choses. Un doctorant le comprend, un directeur de thèse le comprend, parce qu'il est passé par là, mais dans une entreprise, pour des personnes qui n'auraient pas suivi une thèse, même s'ils ont été partants pour qu'il y ait un doctorat, c'est difficile à comprendre. Mmh. Parce que quand on n'a pas vécu ce monde-là de la recherche, c'est difficile à comprendre que les deadlines soient pas forcément respectées, qu'il y a un temps long, que il y ait pas les livrables, c'est un terme qu'on bien utilise en entreprise, le livrable. Et pas les livrables en temps voulu. Donc voilà. Donc c'est vrai que des fois, franchement, c'était un grand écart. Franchement, des fois permanent. Et pareil, je trouve qu'il faut se faire épauler. Moi, je l'ai peut-être pas fait assez pour cette problématique-là parce que je connaissais pas forcément beaucoup de doctorants en entreprise. Mais je pense qu'il faut s'en parler, voire se faire accompagner parfois, parce que c'est un vrai enjeu de faire reconnaître son travail académique auprès de son entreprise quand on est dans une thèse qui est cofinancée avec un partenaire privé, en fait.
Oui, la temporalité n'est pas la même dans la sphère universitaire ou dans l'entreprise. Tu as terminé ta thèse en combien de temps?
Du bout à bout, du la fois où j'ai commencé à la soutenance, 4 ans finalement. Ben oui, mais ce qui est marrant,
t'as tenu les deadlines au final.
Je me suis mis un très 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 gros coup de fouet. Enfin, non, c'est pas que je me suis mis un coup de fouet, mais j'ai eu beaucoup de déclencheurs à la fin de la thèse, parce qu'en fait, je pense que psychologiquement, je n'aurais pas pu continuer davantage. Donc, en fait, je m'étais mis une deadline intérieure aussi, parce qu'en fait, j'aurais pas pu continuer davantage. Voilà, j'aurais pas pu. Puis ensuite, j'aurais plus mon temps dédié à la thèse, donc il aurait fallu prendre de plus en plus sur le temps perso. Donc, en fait, tout faisait en sorte que non, c'était une situation que je voulais pas accepter. Donc oui, finalement, c'est relativement entre guillemets rapide parce qu'on sait qu'en sciences de gestion et sciences humaines et sociales, on peut y passer beaucoup plus de temps. Mais ça, c'est pareil. Hein. Ça c'est aussi un truc à aborder dans une thèse en entreprise, c'est que quand tu fais une thèse, tu signes un contrat sur 3 ans. C'est le contrat cadre en fait. Sauf qu'en fait, il y a plein de thèses où tu dépasses ce temps. Mais du coup, l'employeur peut ne pas comprendre. Parce qu'il te dit, mais attends, t'as signé un contrat, il fait 3 ans. Donc, c'est toi qui es en retard. Tu vois? Et, sauf qu'en fait, dans le sens humain et social, non. En fait, c'est terminé en 3 ans qui est l'exception. Clairement.
Exactement.
Donc,
C'est impossible de terminer une thèse en 3 ans en sciences humaines et sociales.
Ah, mais complètement. Donc, dès que je suis arrivée, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs. Non, mais ça sera minimum 4 ans, etc. Et sauf que toi, quand tu dois dire ça à ton employeur, ton employeur, il te dit oui, enfin non, je comprends pas, on a signé un contrat.
Ouais.
Donc ça c'est des trucs aussi qui sont pas forcément évidents, voilà.
Ton terrain était ton entreprise, du
coup ? Ouais, tout à fait. Mon terrain était le CJD, donc l'association où je travaillais depuis 6-7 ans déjà, effectivement.
D'où la nécessité à un moment donné de mettre un point final à la thèse et de j'imagine
de rendre livrable.
Ouais. Voilà.
Oui.
Exactement. Ben... Puisque du coup, t'étais ta thèse, c'était aussi ton terrain. Ton terrain, c'est aussi là où tu travailles. Et je comprends qu'à un moment donné,
C'est ça. Oui, c'est que oui, tout à fait, exactement. Je pense qu'effectivement, du coup, l'urgence se fait plus sentir parce que si tu fais une thèse pour réfléchir à un sujet à côté de ton boulot, mais qui te passionne, etc., la rigueur, peut-être que ça peut durer très longtemps, et au pire, tu te dis, je la reprends, et puis même si ça s'étend, Voilà, ça s'étend longtemps. Bon, voilà. Mais moi, oui, j'avais une espèce d'urgence aussi à me dire qu'en fait, non, il faut terminer.
De toute manière, clairement. Soit à un moment donné, il faut mettre un point final.
C'est ça.
Exactement,
le point final.
On sera jamais satisfaite de toute manière, faut se dire ça.
C'est ça, exactement.
Tu as fait une thèse sur article.
Oui.
C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est?
Oui, alors thèse sur article, en fait tout simplement c'est simple, il y a deux types de thèses en tout cas à ma connaissance, il y a les thèses monographiques, donc finalement où tu as ta problématique de thèse, etc., puis tu déroules ta thèse en forme de chapitre, etc., puis voilà, tu as vraiment une problématique principale, tu fais ton étude de cas qualitatif, quantitatif, peu importe, et tu déroules. Et après, donc, en général, c'est des thèses qui peuvent être grosses, hein, enfin importantes en termes de pages, ça peut être des thèses de 500 pages, même plus. Et il y a un autre format de thèse qui se développe de plus en plus, visiblement, qui en Suisse, il paraît, devient un petit peu la norme, un professeur m'avait dit, en économie, et qui démarre aussi en France depuis plusieurs années, c'est la thèse par article. C'est-à-dire que tu as ta problématique de thèse, et autour de cette problématique, tu crées au moins 3 sous-problématiques, et tu dois écrire des articles pour y répondre en format scientifique. Donc en fait, tu es déjà en positionnement de d'écrire un article scientifique. Donc tu dois pas transformer tes chapitres de thèse en article scientifique, tu dois déjà le faire en fait, dès lors que pendant ta thèse. Et donc le but c'est au moins d'écrire 3 articles sous format scientifique, c'est-à-dire de 30 pages et qui peuvent être soumis directement à une revue scientifique en fait, pendant la thèse si possible ou après voilà, en tout cas qui peuvent être valorisés directement. Donc ça fait que ça fait des thèses qui sont normalement plus courtes en termes de pages, parce qu'un article scientifique c'est voilà 20-30 pages. Ceci étant dit, t'as quand même un cadre conceptuel, t'as quand même la conclusion, t'as quand même des chapitres qui viennent s'ajouter à ça. Donc par exemple la mienne faisait peut-être 250 pages, quelque chose comme ça. Mais c'est un format qui favorise la publication scientifique, en tout cas qui a ce but-là. Mais c'est un format aussi qui est, je trouve, très challengeant, hein, parce qu'écrire un article scientifique, c'est très dur. Résumer sa pensée sur 30 pages, c'est très, très dur. Donc, tu peux passer un an sur un article scientifique, clairement. Et surtout, quand tu débutes ta thèse, tu sais pas écrire d'article scientifique, en fait. Donc,
Ouais, il y a la méthodologie.
C'est super compliqué. Donc, c'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir coécrire, je trouve, des articles avec son directeur de thèse ou voilà, pour t'apprendre, parce que sinon, en fait, tu ne sais pas écrire d'articles scientifiques. Voilà, donc ça, pour moi, c'était... Ouais, voilà. Alors, nous, on s'était dit que c'était plus adapté pour le monde de l'entreprise. Peut-être. Et je sais pas, finalement. Voilà, je sais pas. Je me suis posé plusieurs fois la question en thèse de changer, pour revenir à une thèse classique, pour finalement étaler ta pensée, si possible, et écrire, et pas être bloqué par 30 pages, 20 pages, etc., mais voilà, c'était un choix, donc après on l'a gardé, quoi.
Effectivement, comme tu l'as dit, c'est très courant de faire des thèses sur article en Suisse. J'avais interviewé Juliette Lancel, qui elle, en ce moment, fait une thèse sur article. Elle est doctorante en Suisse. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait faire une thèse tout en travaillant?
Ben déjà, en fait, c'est d'avoir du temps sur la thèse. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai pas expérimenté le fait de faire une thèse en ayant un travail à temps plein et de devoir le faire le week-end. Moi, j'ai eu quand même du temps qui a été débloqué sur la thèse. Donc, même si c'était un 40% et que l'école doctorale me conseillait d'avoir à minima un 50%. Mais bon, en tout cas, j'avais déjà un peu de temps. Donc, voilà. Donc, ouais, mon premier conseil, c'est d'avoir déjà une thèse qui est financée. Alors, c'est souvent aussi ce que dit Erika Dupont, que tu as eu aussi dans ton podcast. Mais clairement, pour moi, le financement, il est important. Si la thèse que l'on fait... et sur un des sujets de l'entreprise, quoi. Voilà. Si après, c'est pour faire une thèse qui est sur un sujet qui n'a aucun rapport avec la boîte dans laquelle on bosse, et c'est plus un sujet qui est passionnant ou un sujet passion, peut-être que c'est différent. Et peut-être que ça peut être fait le week-end, le soir. J'imagine qu'il y en a plein qui font ça. Et peut-être qu'il y a un peu moins de pression. Voilà. Voilà. Mais peut-être que c'est un peu moins cadré aussi, je sais pas. Donc oui, donc moi, mon truc, c'est de se dire... si c'est une thèse qui porte sur un sujet de l'entreprise dans laquelle on bosse, en tout cas, il faut avoir du temps à ménager, trouver un sujet qui est passionnant pour nous-mêmes, mais aussi pour l'entreprise. C'est les deux, en fait. C'est ça aussi qui est un défi hein, quand on fait une thèse en entreprise, parce que c'est l'entreprise qui choisit un petit peu le sujet hein, de la thèse. Et toi, tu dois t'adapter, en fait. Donc, le but, c'est que ça soit passionnant pour les deux, pas que pour l'entreprise et pas que pour toi, en fait.
Comme tu le sais, YEPHD est un podcast qui interroge les chercheuses et les chercheurs. Et moi, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse ?
Pour moi, être chercheur, j'allais dire que c'est partir à la découverte de la vérité. Ou en tout cas, de la vérité de chacun et de sa vérité. Dans le sens où le but, c'est de se détacher de ses biais cognitifs, ou en tout cas d'en être conscient, et puis d'aller de répondre à des questions, quoi. Des questions qui peuvent être de société ou des fois de science dure, hein. Voilà. Moi, je sais que la recherche, ça m'a fait du bien parce que justement, quand tu fais une thèse en entreprise et que tu connais en plus l'entreprise dans laquelle tu es, t'as forcément des biais au début parce que t'es trop ancré dans ton terrain. Et la thèse, ce qui est bien, c'est que ça te fait prendre du recul par rapport à ton terrain. Donc, t'es obligé déjà de t'éloigner physiquement de l'entreprise. Donc, tu vas à ton laboratoire de recherche quand tu peux. Et tu prends du recul parce que tu lis des études de cas, tu lis des choses différentes. Et en fait, ça te permet d'avoir un œil critique, en fait. Voilà. Donc, être chercheur, c'est aussi pour moi avoir un œil critique, avoir l'esprit ouvert, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un chercheur qui a des idées préconçues et qui pense détenir la vérité. Voilà. Je pense qu'il faut avoir le cœur ouvert et les oreilles aptes à entendre peut-être des voix dissonante de celle de la sienne, voilà, et se dire ben why not, il faut expérimenter, voir est-ce que ça marche ou pas, enfin voilà, c'est ça pour moi être chercheur.
Merci beaucoup Julie Céline d'avoir partagé ton expérience, c'était passionnant.
Merci à toi.
Merci à Julie Céline pour cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles. À très bientôt.